dialogue politique, le facilitateur de Mokojo a remis vendredi dernier aux parties prenantes le projet d'accord politique qui doit être signé à l'issue de ce forum. Ces projets d'accord politique prévoient notamment la formation d'un gouvernement de large union nationale qui sera dirigé par une personnalité issue de l'opposition. Le président Kabila, quant à lui, conservera ses fonctions jusqu'à l'installation du prochain président élu. En outre, ce projet d'accord ne précise aucune date pour la tenue des prochaines élections. Quelle lecture faire de ce projet d'accord politique? Nous en parlons avec André Alain Ationdou, il est porte-parole de la majorité présidentielle. Il est aussi délégué au dialogue politique. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur André Alain Ationdou Lyongo.
Bonsoir, monsieur.
Emery Okundji, député national de l'opposition et cadre du parti politique FONUS, il est membre du Rassemblement, une plateforme de l'opposition qui ne participe pas au dialogue. Bonsoir, honorable Emery Okundji.
Bonsoir, Guy Maté.
Et professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa. Bonsoir, professeur Félicien Kabamba.
Bonsoir, Guy Maté.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez-les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le facilitateur Edem Kodjo se prépare à clôturer au moment opportun les travaux du dialogue avec la signature d'accords politiques. Il l'a signifié lors de la courte plénière de vendredi dernier. Les parties prenantes au dialogue sont actuellement en possession du projet de cet accord politique, dont le contenu est basé sur l'organisation d'élections crédibles et apaisées en RDC. Les détails avec Askin Zigbia Tayoro.
C'est un projet de 15 pages qui a été distribué vendredi dernier aux parties prenantes au dialogue au cours d'une courte plénière. Dans ce projet, les participants au dialogue vont devoir, entre autres, s'accorder avec la centrale électorale de la RDC pour l'élaboration d'un calendrier électoral en fixant la date raisonnable pour la tenue des élections présidentielles couplé avec les législatives nationales et provinciales. Par conséquent, le projet indique que la CENI doit publier le calendrier électoral détaillé 15 jours après la signature de l'accord politique. Une période intérimaire de gouvernance de la République est consacrée aussi dans ce projet, c'est-à-dire d'après l'accord, immédiatement après la signature du compromis politique, un nouveau gouvernement de large union nationale doit être mis en place sous la conduite d'un premier ministre qui sera issu des rangs de l'opposition. Pendant cette période intérimaire qui intervient après le 19 décembre 2016, le président Joseph Kabila reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu de la République. En outre, selon l'accord, ni le premier ministre, ni aucun membre de ce nouveau gouvernement ne peuvent être candidats à l'élection du président de la République.
Les projets d'accord politique distribués par le facilitateur Edem Kodjo, délégué du dialogue, assassinent la constitution de la RDC. La déclaration est du député national Henri Thomas Lokondo. Pour le président de l'Union congolaise pour la liberté UCL, en sigle, parti membre de la majorité présidentielle, l'existence d'un gouvernement de large union nationale tel que prévu dans ces projets d'accord politique va créer un dysfonctionnement total entre les parlements et ces gouvernements au regard de l'article 78 de la constitution. Henri Thomas Lokondo qualifie d'abomination le fait que les relations entre les gouvernements et les parlements soient régies par les consensus tels que voulus par le projet d'accord de Kodjo en violation flagrante de l'article 100 de la Constitution. On l'écoute au micro d'Askin Zigbia Tayoro.
Quand le projet d'accord dit qu'il sera mis en place un gouvernement de large union nationale, dont le premier ministre viendrait de l'opposition, cela veut dire en d'autres termes qu'il faut créer une nouvelle majorité dans un jeu de coalition. Et pour identifier cette coalition, le président de la République doit nommer un informateur, et ce conformément à l'article 78 de la Constitution, étant donné que notre Constitution ne prévoit pas l'existence d'un gouvernement de transition. Et aussitôt que ce Premier ministre est nommé, ainsi que les autres ministres issus de l'opposition, ils deviennent tous de la majorité. Et ce gouvernement doit être investi par l'Assemblée nationale. L'accord ne pense pas à cela, il pense plutôt à violer vigoureusement l'article 78 de la Constitution. Deuxième exemple. Et ce qui est grave, qui est une abomination, c'est la violation incroyable de l'article 100 de la Constitution, qui donne au pouvoir législatif le pouvoir de légiférer. Parce que l'article 23 du projet d'accord de Kodjo dit en son point F que l'essence de l'accord étant le consensus va alors régir également les relations entre le gouvernement et le Parlement. En clair, cela veut dire que le consensus supprime le vote, pourtant prévu par la Constitution et les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat comme mode d'adoption des décisions, par oui, non ou abstention. C'est extrêmement grave.
André-Alain Tundou, je rappelle que vous êtes porte-parole de la majorité présidentielle, vous êtes aussi délégué au dialogue. Quelle lecture vous faites de ces, du contenu, n'est-ce pas, de ces projets d'accord politique? Et, par exemple, là où il est dit que immédiatement après la signature du compromis politique, un nouveau gouvernement de l'Union nationale doit être mis en place sous la conduite d'un Premier ministre qui sera issu des rangs de l'opposition.
Je voudrais d'abord et essentiellement, sinon exclusivement, donner mon point de vue sur cette émission. Cette émission est mauvaise, parce que inopportune.
Pourquoi ?
Elle crée un malentendu.
C'est-à-dire ?
Illustré par les propos du sénateur Lokondo, parce qu'elle fait une exploitation malsaine d'un document de travail qui est présenté comme un résultat acquis.
Un projet
donné par le facilitateur dans son rôle normal qui est présenté comme le projet Kodjo. Je crois que ce n'est pas ça ce que l'on a voulu. D'ailleurs, c'est un document qui est adressé aux participants. Et on peut se demander pourquoi n'importe qui a aujourd'hui ce document, même à côté de...
Mais parce qu'il a été rendu public par les mêmes facilitateurs. Comment vous analysez le contenu de ce document
aujourd'hui,
par rapport d'abord au gouvernement qui est prévu?
En ce moment dire quoi que ce soit sur ce document qui n'a encore pas eu le point de vue de la majorité, ni le point de vue de l'opposition. Et ici, je me retrouve avec quelqu'un de l'opposition qui est en dehors. Donc c'est un débat comme si je devais encore expliquer la nécessité
Monsieur
de l'inclusivité.
Nous sommes dans un contexte, n'est-ce pas, où un forum important est organisé. Et pendant, n'est-ce pas, ces forums, on produit un document qui est présenté comme les projets d'accord politique, qui est entendu par tout le monde. Alors, lorsque vous dites que vous ne pouvez pas l'analyser, c'est quand même étonnant.
Non, ce n'est pas étonnant. Il faut s'habituer à dire, à connaître les choses quand elles sont à connaître. Aujourd'hui, ce document, même s'il se retrouve dans les mains du professeur, ce n'est pas pour le professeur. Parce qu'il peut donner son point de vue, qui n'est ni le point de vue de la majorité, ni le point de vue de l'opposition, ni le point de vue de la société civile. À quoi va servir ce débat ? Ce n'est pas un travail pratique de portée académique. Il y va de la vie des gens.
Est-ce que vous ne pensez pas que à l'issue de ce débat, les participants au dialogue pourraient avoir des éléments pour n'est-ce pas enrichir ces documents lorsqu'il y aura débat au sein de la plénière.
Ce débat va augmenter, accroître le malentendu que ceux qui ne sont pas au dialogue entretiennent par rapport à ceux qui sont au dialogue. Comment peut-on parler en 10 minutes, 15 minutes ou même 50 minutes d'un document qui a fait 2-3 semaines?
Monsieur le matadeur, l'émission est également pédagogique. Hein, le peuple congolais, n'est-ce pas, est intéressé par les documents qui sera issu, n'est-ce pas, de ces forums. Et c'est tout à fait normal que les acteurs politiques, notamment ceux de la société civile et scientifique, puissent débattre, n'est-ce pas, du contenu de ces projets d'accord.
Monsieur Guy Maté, je suis d'accord avec vous. C'est une émission pédagogique. Alors, il faut éduquer le peuple à attendre qu'un document soit discutable. Ce document ne l'est pas, puisqu'au niveau de la majorité, on ne s'est pas encore prononcé.
On vous l'a, distribué en tant que participant, n'est-ce pas, à ces dialogues. Nous posons une question précise.
Mais eh bien,
par rapport à ça,
je ne peux rien dire, parce qu'il faut que ce soit une position de la majorité, une position de l'opposition, des gens qui ont participé au dialogue, que ça fasse échange, n'est-ce pas, le fruit d'un échange. Et alors, si ça sort comme document du dialogue, en ce moment-là, ceux qui n'ont pas participé, la population a droit de donner son point de vue quant à ceux. Mais auparavant, c'est malvenu, c'est même inutilement inopportun.
Pourquoi inopportun?
Mais c'est inopportun, parce que c'est un document de travail. Vous avez entendu la position péremptoire du Sénat, du député Lokondo. C'est dû à quoi? Parce qu'il considère que tout ce qui est proposé, c'est un droit acquis. Ah non.
Non, il a appelé ça projet d'accord politique.
Il faut éviter de créer un malentendu.
Monsieur l'ambassadeur, vous ne pensez pas qu'avec cette attitude, vous cherchez à cacher certaines choses?
Je ne cache rien. Je ne cache rien. Vous n'allez pas m'avoir sur ce plan-là. Je dis ceci.
Et les tabous dans tout ceci, c'est quoi? C'est quoi les tabous? Parce que vous refusez de parler de ces projets.
Si déjà, le dialogue, dans sa première phase, a été, on va dire, presque confidentiel, cela signifie que c'est une décision consensuelle en élaboration.
Monsieur l'ambassadeur, le document n'est pas confidentiel.
Mais le document a été malheureusement, et à ce moment-ci, je ne peux pas donner un point de vue qui n'engage pas la majorité. Parce que, d'autant plus que je suis non seulement délégué, mais porte-parole.
Donc, on note que par rapport à ce document qui a pourtant été rendu public, n'est-ce pas, officiellement, et la majorité refuse d'en parler.
Je refuse d'en parler en ce stade.
Honorable Mary Okundji, vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique FONUS. Vous êtes membre du Rassemblement à une plateforme de l'opposition qui ne participe pas à ces dialogues. Comment réagissez-vous d'abord face à l'attitude affichée par M. l'ambassadeur Angalaire à Toundou?
Bon, je vous remercie Guy Maté de la question que vous me posez. L'attitude de M. Alain Toundou ne me surprend pas. C'est une attitude de ceux qui veulent faire un coup d'État constitutionnel, de ceux qui cachent aux Congolais leur destinée, leur avenir constitutionnel, de ceux qui veulent opérer un coup d'État constitutionnel, Guy Maté. C'est cette attitude qui justifie le refus de M. Alain Toundou de répondre à une question simple que vous veniez de lui poser. Et donc, vous aviez vous-même dû remarquer qu'ils se sont retranchés dans un camp militaire pour tenir ce dialogue et qu'ils ont refusé de donner l'information au souverain primaire, au peuple congolais. Ça veut dire quoi? C'est un boutiquage. Et voilà, Dieu merci, que ce boutiquage est connu de tout le peuple congolais. Guy Maté, le facilitateur du dialogue de ce fameux dialogue, s'il faut appeler ça dialogue, mais nous, au rassemblement, nous appelons ça monologue, puisque c'est une famille politique élargie à ses alliés qui se retrouvent dans un camp militaire pour essayer de violer la Constitution et de pérenniser quelqu'un au pouvoir.
Et par rapport au contenu de ces dialogues, par exemple, là où il est dit que le président Joseph Kabila reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu.
J'en reviens, Guy Maté, je vais répondre à votre question. C'est quoi le fondement de ces dialogues? C'est quoi le fondement? Le facilitateur le sait très bien. Et lui-même l'a souligné dans le préambule. Lorsqu'il dit que nous engageons à respecter la Constitution dans sa totalité et à nous abstenir de toute lecture sélective des dispositions constitutionnelles, à quelque fin que ce soit. Le facilitateur fait ce dialogue conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le Conseil, la résolution réaffirme.
C'est ce qui est dit en théorie.
En théorie, voilà. La résolution réaffirme la tenue de ce dialogue dans le respect de la Constitution. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est-à-dire, les limites de toute manœuvre politique face à la Constitution. Donc, je vais dire que le dialogue politique est normalement de votre double imposition. La première imposition, c'est les limites de toute manœuvre politique face à la Constitution. Et la deuxième imposition, c'est les limites de toute manœuvre politique face à la résolution. Je souligne le fait que la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies est une loi internationale qui s'impose conformément à la charte à ses membres. Et donc, envoya ce projet, d'accord, vous voyez tout de suite là que nous allons tout droit à une violation intentionnelle flagrante de la Constitution. Et j'ai dit que le facilitateur est allé au-delà de son mandat. Il statue ultra petita, au-delà de son mandat.
Et cette violation, flagrante de la Constitution, vous la voyez à quel niveau?
Ah ben, lorsque mon collègue Henri Thomas Lokondo l'a dit, la proposition, la mise sur pied du gouvernement d'Union nationale. Et c'est en violation flagrante de l'article 78. Mon collègue Lokondo l'a dit bien.
Donc le Premier ministre sera ici de la
l'opposition politique.
N'est-ce pas que ça vous rassure, vous, de l'opposition?
Nous ne nous rassure pas.
Nous rappelons qu'à un certain moment, l'opposition disait que si on n'arrive pas à organiser des élections dans les délais, il faudrait
une transition
qui sera dirigée par
les opposants. Les alliés du pouvoir qui sont au dialogue, qui se disent opposants, nous disaient qu'ils connaissaient très bien ces hommes de la majorité. Si nous allons au dialogue, eh bien, nous tomberons dans le piège du président Kabila. Eh bien, voilà que ceux qui nous disaient cela, eux-mêmes sont au dialogue du camp Tchatchi. Et ils sont tombés dans le piège de leur allié du moment. Et donc, c'est regrettable. J'ai des larmes aux yeux qui m'attendent parce que nous revenons à la case du départ.
Honorable Emery, vous ne pensez pas que vous, d'une manière ou d'une autre, vous, députés nationaux, vous allez cautionner, n'est-ce pas, cette que vous appelez violation flagrante de la Constitution, dans ce sens que le gouvernement qui sera issu, n'est-ce pas, de cet accord, et va passer chez vous au Parlement pour qu'il soit investi.
Guy Maté, nous ne pouvons pas parler d'une question qui viole manifestement la Constitution si nous sommes sérieux. Et le peuple ne l'acceptera pas.
Et donc, cela veut dire que les députés nationaux ne vont pas investir ce gouvernement.
Comment vont-ils investir un gouvernement dont l'émanation viole la Constitution? L'émanation de ce gouvernement, c'est l'accord d'une famille politique élargie à ses alliés. Et vous croyez que cet accord va s'imposer, va être opposable au peuple congolais tout entier? Non, je ne le crois pas, Guy Maté, et le peuple congolais ne l'acceptera pas. Nous ne sommes pas là dans des conciliabules pour violer la Constitution, pérenniser les gens au pouvoir en violation flagrante et de la Constitution et de la résolution 2277. Nous ne pouvons pas l'accepter. Mais ce Kodjo a des limites.
Merci.
Ces limites, c'est de respecter la Constitution de la République démocratique du Congo, qui est la volonté du souverain primaire, et de respecter la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Il faut préciser qu'à ce stade, il s'agit d'un projet.
Mais mon cher ami, il l'a distribué. Quand je vois le porte-parole de la majorité présidentielle refuser de commenter les documents. Mais ils sont en train de l'étudier, ils sont en train de travailler là-dessus.
Merci.
Et que ces documents engagera toute la République démocratique du Congo.
Merci.
Heureusement que le peuple aujourd'hui a une maturité démocratique qui les guide, qui aucune personne ne peut se permettre de violer la Constitution.
Merci, honorable Okunji. Professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur au Centre d'études politiques de l'Université de Kinshasa, comment vous analysez ce projet d'accord politique?
Je remercie Guy Maté.
Même si la majorité refuse d'en parler.
Bien entendu, je crois qu'il y a, à l'origine, le dialogue n'était pas retransmis à la télévision. Et je crois qu'il y a là une volonté de donner au dialogue un caractère ésotérique.
Ésotérique, pourquoi? Alors que c'est un forum, n'est-ce pas, qui va engager, comme l'a dit l'honorable Okunji, qui engage toute la République.
Alors, quand il n'est pas ésotérique, donc, il est retransmis. Mais ce qui est ésotérique, c'est c'est une affaire d'initiés, c'est une affaire de ceux qui se sont enfermés.
Logiquement, les résolutions issues de ces forums ne doivent engager que les initiés, n'est-ce pas, les personnes qui ont participé à ces...
Alors, je ne voudrais pas m'éterniser trop sur cette question, mais j'ai pu comprendre un tout petit peu l'embarras de l'ambassadeur, parce que la question n'ayant pas, le document n'ayant pas été traité de fond en comble par sa famille politique et donc il ne voudrait pas s'engager sur un commentaire qui pourrait probablement énerver sa famille politique. Mais moi, je n'ai pas l'intention d'entrer dans les affaires qui concernent la majorité. Je note un certain nombre de choses concernant cet accord, ou si vous voulez, ce projet d'accord, parce qu'accord, l'accord n'est pas encore signé. Il a été soumis pour appréciation aux différentes parties prenantes. La première remarque, c'est que la prolifération des accords, qu'il s'agisse des accords de paix ou des accords de sortie des crises, est un indicateur de la fragilité de l'ordre et du système politique. En réalité, les institutions en place avaient pour rôle de construire la stabilité. Or, quand vous regardez la vitesse avec laquelle, il n'y a pas très longtemps qu'on a eu un accord après les concertations, ça montre bien qu'il y a en RDC une absence de stabilité, qu'il y a véritablement une fragilité. Et donc, l'un des défis du prochain gouvernement sera de construire la stabilité et de quitter ce cercle vicieux de la fragilité. Mais parce qu'il faut parler de l'accord, étant donné qu'il y a quelques mois, on a eu un accord à l'issue de concertation, il faut dire ici que cet accord fait plutôt ressortir quatre grands acteurs. Quand vous le lisez, il n'y en a pas trois. On parlait de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Mais aujourd'hui, il y a un quatrième acteur. En fait, un quatrième acteur qui est issu de l'explosion de l'opposition. On parle bien de l'opposition politique et de l'opposition républicaine. On prend le soin de séparer les deux. On ne dit pas qu'il y a une opposition, mais on dit qu'il y a l'opposition républicaine. Lisez bien, même quand on parle du gouvernement, la formation du gouvernement, on sépare l'opposition politique de l'opposition républicaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire aussi qu'en fait, ce déchirement de l'opposition s'est également manifesté au sein du dialogue. Alors, vous avez un dialogue qui fondamentalement visait à arrêter le calendrier électoral. La question électorale était, de mon point de vue, la question au cœur du dialogue.
Mais on se rend compte que dans ces projets d'accord, il n'y a pas de date.
Regardez.
Nulle part, on a précisé les dates, n'est-ce pas, des prochaines élections.
Alors, regardez. Dans cet accord, il n'y a pas de date. Il y a quelques points où il y a des pointillés. Par contre, il est dit que les dates seront fixées 15 jours après signature de l'accord.
Mais comment vous expliquez cela? Pourquoi ces choix? Pourquoi certaines questions sont contenues dans cet accord et d'autres non, comme les questions liées aux élections? Pourquoi?
Alors, c'est la question que moi également je me pose. Pourquoi, à l'issue, avant de signer, il n'y a pas les dates dans le document? Il aurait pu y avoir des dates. Parce qu'en fait, si vous apposez votre document sur un document, votre signature sur un document, où véritablement le calendrier est absent, vous risquez de regretter votre signature plus tard. J'ai signé sans savoir que la date allait être repoussée 3 ans plus tard. Et là, il y a là, à mon avis, un véritable piège. Il faut absolument que la date soit sur le document. On ne peut pas la mettre 15 jours plus tard, et à supposer que les dates proposées par la CENI ne rencontrent pas l'assentiment de ceux qui, pendant ce temps, auraient déjà signé le document. Là, il y a un problème.
Et même si la date elle est précisée 15 jours plus tard, est-ce que vous pensez que c'est faisable? Parce que, en fait, l'élaboration d'un calendrier, la précision de ces dates importantes, ça, c'est la conséquence, n'est-ce pas, de beaucoup d'opérations. Il faut permettre, n'est-ce pas, à la CENI de travailler, et ce n'est pas en 15 jours que la CENI va élaborer un calendrier.
Mais je crois qu'en mettant 15 jours, c'est qu'ils ont été en contact avec la CENI, qui a certainement promis qu'après 15 jours, 15 jours après signature, eh bien, la CENI sera à même de pouvoir donner les échéances. Mais une deuxième question concerne également la CENI. Parce que, comme on a eu à le dire, pour garantir les élections transparentes, il ne suffit pas seulement d'avoir le fichier électoral. Il faut également regarder la, si vous voulez, le caractère de neutralité de la CENI. Et quand vous regardez la composition de la CENI aujourd'hui, et même son mode opératoire, cette neutralité, elle est justement nominale.
Merci.
Elle n'est pas une neutralité vécue. Alors, regardez maintenant ce qui est dit en ce qui concerne la reconfiguration de la CENI. Et il est dit que la CENI va proposer un plan de sa restructuration. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de la restructuration de la CENI par ceux qui sont au dialogue, mais par la CENI elle-même. Et sans trop dire comment les choses, dans quel sens les choses vont aller. Là, véritablement, il y a un très grand flou.
Merci, monsieur l'ambassadeur André Alain Tundou. Il y a une réflexion, n'est-ce pas, qui a été mise et à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Lumbashi.
François Moulila de Lumbashi. Cet accord radical n'est pas une surprise pour tout averti en histoire politique congolaise. Étant donné que l'histoire se répète, mais je constate que le 280 du Kinshasa ont mal diagnostiqué le problème qui provoque actuellement. Le problème actuel n'est plus l'organisation des élections dans le fameux délai constitutionnel, mais le départ du président de la République après le 19 décembre 2016. Et une mise en garde est faite à tout politique qui s'hasarderait d'y cautionner, car il aura en face de lui un peuple congolais. L'alternance ou rien.
Oui, monsieur l'ambassadeur, André Alain Tundou.
Oui. D'abord, je voudrais recadrer les choses. Le député Mukunji nous a rappelé quand Moïse descendant de la montagne avec une table de commandement de Dieu, que le respect de la Constitution, etc. Mais c'est un postulat. Le respect de la Constitution est un postulat sur lequel est fondé le dialogue. Et donc, enfoncer une porte ouverte, c'est peut-être pour des besoins rhétoriques, mais ça n'apporte rien de nouveau.
Le respect de la Constitution est
un postulat. Le respect de la Constitution est un postulat.
Or, vous prévoyez déjà la mise en place d'un gouvernement d'élargie
union nationale. Son plaidoyer aux accents pathétiques ressemble plutôt à un prodomeu et à une profession de foi. Il répète ce qu'il a toujours dit, eh bien, peut-être maintenant dans une autre circonstance, qu'il espère meilleure pour être entendu. Mais nous ne sommes pas dupes. Deuxièmement, cela m'étonne quand même, de la part d'un député qui vient d'assister aujourd'hui à une séance à huis clos. Mais quel est le sens de huis clos dans un pays? Pourquoi? Pourquoi ne pas diffuser? Donc ça signifie qu'il y a des intérêts majeurs qui doivent être bien préparés avant de livrer au public. Et donc ce n'est pas une invention, ce n'est même pas une marque de bouticage comme il a dit, c'est de la responsabilité. Il faut que quand vous mettez quelque chose à la disposition du peuple, que vous puissiez répondre à toutes ces questions. Et aujourd'hui, je le répète, ce document malencontreusement aux mains de n'importe qui, excusez-moi l'expression, eh bien, n'est pas à donner au public. C'est un document en élaboration dans chaque composante. Aucune composante n'a donné son point de vue. Je ne serais pas étonné que...
Et donc, vous donnerez raison pour faire qui a parlé d'un forum ésotérique, réservé aux initiés.
Oui, mais c'est comme la commission, les commissions du Parlement, ce sont des forums ésotériques. Le huis clos qu'il vient d'avoir, ce sont des forums ésotériques. Ce sont des mots qui ne veulent rien dire. Il s'agit ici de la responsabilité. Nous sommes d'accord de donner notre vision, la vision du dialogue, les résolutions du dialogue au public, mais il faut que ce soit les résolutions du dialogue, c'est-à-dire consensuelles. Les propos du professeur mais me conforte encore dans ma position de ne pas parler de ça. Il parle à tout instant, dans cet accord, il est dit. Dans cet accord, il est dit. Mais c'est un no paper, comme on dit aujourd'hui. Ce n'est pas un accord, c'est un no paper. C'est-à-dire un document non signé qu'on met à la disposition des gens pour raison de travail.
Vous avez suivi le professeur Félicien Kabamba qui affirme que la prolifération des accords est un indicateur de la fragilité de l'ordre des... et des institutions politiques.
Bon, je ne suis pas... C'est son avis. mais ça ne s'impose pas à tous. Parce que la prolifération de l'accord peut être aussi l'expression de la capacité d'adaptation de l'évolution de la situation. Ce n'est pas une précarité. Au contraire, ça consolide.
En quoi ça consolide? Parce qu'il y a déjà deux ans, on avait notre accord ici, des concertations nationales.
Les accords qui se sont passés à Mbandaka, du temps de Moïse Tshombe. Ce n'est plus aujourd'hui. C'est dans un autre contexte. Les accords d'aujourd'hui se réfèrent néanmoins à cela, à ce qui s'est passé à Saint-City. Donc, puisqu'on a eu Saint-City, on ne peut plus rien avoir. Mais je rappelle que le dialogue, c'est un instrument de gestion de la communauté nationale. Et que ce dialogue fini, un autre viendra, un autre jusqu'à la fin des temps.
Un instrument de gestion de la communauté nationale lorsque cette communauté n'est pas associée, n'est-ce pas, à ces dialogues?
Mais si.
Et
la communauté est associée à travers ses représentants.
Vous le faites à huis clos?
Et on ne le fait pas à huis clos. Merci. Ceux qui ne veulent pas y participer, ils veulent prendre le pays en otage en vue de justifier et de donner une légitimité à le projet séditieux de prendre le pouvoir par le chaos à la faveur de la rue.
Honorable Emery Okundji, il y a une réflexion qui est faite par cet auditeur de l'Odja.
Angelo depuis la province du Sankuru à l'Odja. Je pense que cet accord est à l'ouest celui attendu par le peuple congolais et remplit davantage les dialogues non inclusifs qu'il vient d'être adopté. Ajoute, on comprend que ce forum avait comme objectif réviser la constitution et partager les postes au lieu et à place pour faire un consensus qui peut faire sortir ce pays dans le chaos. Ça sera difficile pour les dialogueurs d'expliquer au peuple congolais que ce forum est pour la paix et l'unité du pays.
Oui, honorable Emery Okundji.
Il a totalement raison, Guimaté. Et j'ai dit ici, j'ai souligné le fait que le peuple congolais a atteint une maturité démocratique, une maturité politique qui lui permet de distinguer le bien du mal. Cet accord, c'est un mal profond pour notre peuple, pour notre pays. C'est un recul démocratique. Et je suis tout à fait d'accord avec le professeur.
Vous ne pensez pas que quelque part, vous êtes aussi responsable du fait que vous n'avez pas voulu, n'est-ce pas, aller participer à ce dialogue? Peut-être que si vous, vous auriez, n'est-ce pas, déjoué les plans de...
Non, Guimaté, les temps nous donnent raison. Les temps donnent raison au rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Vous voyez vous-même l'accord. Guimaté, lisons l'accord. Quel est l'élément nouveau? De la première page à la dernière, on n'a fait que copier les lois de la République et la Constitution.
Honorable.
Loi portant organisation et fonctionnement de la CENI.
Vous êtes convaincu qu'on aurait ce projet d'accord si le rassemblement participait à ce dialogue?
Oh non, si le rassemblement, je suis sûr et certain, si le rassemblement participait à ce dialogue, on n'aurait pas confectionné un document qui viole intentionnellement et de manière manifeste la Constitution de la République.
Il aurait été souhaitable
que vous soyez là. Non, nous le savions. Nous le savions puisque on a vu le comportement du facilitateur était un indicateur. Et nous avons raison aujourd'hui. Pour preuve, vous voyez que le facilitateur va au-delà même de sa mission. Au-delà même et de la résolution 2277 et de la Constitution de la République. Il viole intentionnellement la Constitution de la République. L'élément nouveau dans cet accord, c'est quoi? Tout ce qui est dit dans toutes les pages, ben c'est du déjà vu, c'est du déjà, c'est les lois de la République, c'est la Constitution. C'est la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, c'est la loi électorale. Il n'y a rien de nouveau. C'est les recommandations faites au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Rien de nouveau. L'élément nouveau ici, c'est quoi? C'est le partage du gâteau. Nous acceptons de violer la Constitution. Nous acceptons de s'accrocher au pouvoir pourvu que vous nous donniez le poste du Premier ministre. Pourvu que nous puissions partager les postes en violation flagrante et de la résolution 2277 et de la Constitution de la République démocratique du Congo. En un mot, c'est le retour à la case du départ. Est-ce que le peuple congolais va l'accepter? Je dis tout de suite non. Le peuple ne l'acceptera pas. Nous devons respecter scrupuleusement la Constitution. Nous devons respecter la résolution 2277. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe au camp Tchatchi n'est que, en tout cas, le fruit d'une famille politique qui s'est réunie avec ses alliés pour confectionner tout justement un coup d'État constitutionnel.
Merci, honorable Emery Okundji, professeur Félicien Kabamba. Il y a une réflexion aussi qui vient de Bukavu, sud Kivu.
Robert Wame de Bukavu, au sud Kivu. Le projet d'accord est le reflet d'un dialogue politique apparent, un dialogue qui semble échouer car il n'aboutit pas du tout à l'une des aspirations ou des attentes légitimes du peuple congolais, à savoir la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Autant dire que cet accord est plus un accord de partage du pouvoir entre la majorité et l'opposition pro-dialogue qu'un accord soucié de décrisper réellement le climat politique actuel en RDC. Je pense que l'organisation d'un vrai dialogue politique inclusif s'impose encore dans ces pays.
Oui, professeur Félicien Kabamba.
Non, mais je crois qu'il a bien raison. Le dialogue, d'abord il faut dire que le contexte particulier dans lequel ce dialogue est organisé, c'est un contexte un peu plus compliqué à expliquer, étant donné que on avait la possibilité d'organiser les élections dans le délai, mais pour toute une série de raisons, on n'a pas pu le faire. Et aujourd'hui, la raison principale du dialogue, c'est de trouver un calendrier consensuel. Mais malheureusement, toutes les parties ne sont pas là. Il y a une partie de l'opposition qui est là et qui est reprochée d'avoir intégré les rangs de la majorité. Et donc, du coup, on aura là un accord qui posera problème. Un vrai accord, c'est par exemple l'accord qui est sorti à Pretoria. On a vu que toutes les parties prenantes avaient signé. Mais là, aujourd'hui, on aura un accord qui posera problème.
Et alors, posera véritablement problème. Comment vous entrevoyez le débat sur ces projets d'accord politique dans la plénière du dialogue? Est-ce que l'opposition qui participe à ces dialogues aura-t-elle assez de marge de manœuvre pour y apporter des modifications afin d'éviter, n'est-ce pas, de violer la Constitution?
Alors, difficile pour moi de connaître un tout petit peu la situation actuelle de l'opposition au sein de ces dialogues, parce qu'il y a, plusieurs enjeux. Est-ce que elle va regarder vers les enjeux? Est-ce qu'elle est unie? Comment elle arrive véritablement à aborder la question du dialogue et toutes les questions qui aujourd'hui la séparent à la majorité, avec la majorité? Ça, c'est difficile. Mais je voudrais quand même dire un mot. Quand vous lisez mieux, vous lisez très bien ce projet, vous allez trouver qu'on parle bien du gouvernement intérimaire. Alors, pourquoi on a évité le concept de transition? Est-ce que le gouvernement intérimaire est un gouvernement de transition? Généralement, un gouvernement de transition, c'est un gouvernement qui vient ou qui s'intercale entre le changement de deux régimes. On veut passer, par exemple, à l'époque, on avait le régime de Mobutu qui était un régime monolithique. On voulait passer à un régime ouvert, qui est un régime démocratique, un régime pluraliste. On se dit, il faut qu'on ait une phase transitoire. Et ce passage-là a nécessité qu'on ait, si vous voulez, un gouvernement qui est également transitoire. Alors, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de transition du tout. Il y a plutôt une crise qu'on veut anticiper. Et on se dit, il faut qu'on sorte de la crise. Alors, et pour ce faire, on a emprunté le concept intérimaire. Et ce concept est aussi un concept à problème. Parce que qu'est-ce que ça veut dire intérim? Allons, peut-on dire que là...
Et qui intervient là, à quel moment? Est-ce que ça se
là que nous attendons maintenant la réaction de la majorité, si véritablement le concept de intérimaire est un concept qui vaut la peine. Parce que quand ils acceptent le concept de gouvernement intérimaire, ça veut dire qu'ils acceptent également qu'en fait tout le gouvernement, et peut-être on peut aller plus loin jusqu'au chef de l'État, qu'il faut qu'il y ait un chef de l'État intérimaire, parce que le concept intérimaire, c'est eux qui le mettent déjà dans... Alors, tous ces concepts sont des concepts pièges. Et il faut leur donner un contenu réellement et scientifiquement acceptable. On a évité le concept de transition, ok? Alors, on parle de concept intérimaire, mais qu'est-ce que ça veut dire un gouvernement intérimaire?
Merci. Monsieur l'ambassadeur André Aliantoundou, quel est le contenu que vous donnez à ces concepts intérimaires?
Malheureusement, le développement de l'honorat du professeur me conforte dans ma position. Il ne faut pas en discuter, parce que ce qu'ils disent n'est pas ce qui a été adopté. Il faut attendre, n'est-ce pas, l'honorable ne cesse de parler de l'accord. Je le répète, il ne s'agit pas de l'accord. L'honorable ne cesse de verser dans l'opinion des éléments inexacts. Le dialogue se passe au Kanchachi. Non, le dialogue se passe à la cité de l'Union africaine qui se trouve au Mont Galiéma. Il faut que le peuple le sache.
Mais pourquoi vous ne voulez pas comprendre la position de l'honorable qui est membre de l'opposition? Parce qu'en fait, quand vous lisez les contenus de ces projets d'accord, vous sentez les relents, n'est-ce pas, d'une violation de la Constitution. Et vous voulez que, face à cela, que l'opposition
se taise. Il n'y a pas de violation de la Constitution, parce que je vous dis, le postulat sur lequel est assis ce dialogue, eh bien, c'est le respect intégral de la Constitution, sur toutes ses formes. Mais...
un premier ministre issu de l'opposition...
Vous savez... C'est vous qui
l'avez dit. L'article 118 de la Constitution, n'est-ce pas, qu'il est violé?
Mais pourquoi voulez-vous juger ce projet comme un résultat? Ce que vous dites là... peut-être demain il n'en sera pas ainsi. Vous voyez, vous entraînez le débat dans un malentendu.
Et comment vous envoyez le débat au sein de la plénière du dialogue?
Toutes les affirmations que vous faites, ce sont des pétitions de principe. Oui, n'est-ce pas?
Monsieur l'ambassadeur.
Vous affirmez de façon péremptoire ce qui doit être absolument prouvé.
Monsieur l'ambassadeur.
Vous êtes en déficit de preuves.
Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous allez permettre, n'est-ce pas, à l'opposition qui participe à ce dialogue de pouvoir apporter certaines modifications à ces projets d'accord politique quand il y aura débat au sein de la plénière du dialogue?
Moi, je le répète, il ne m'appartient pas ici de jouer au devin pour décider d'avance de ce que sera la résolution. Non, mais le vrai problème, je dois le dire, le vrai problème de non-participation du rassemblement, c'est un problème de lutte, de leadership au sein de l'opposition. Ils doivent bien se battre contre Kamere, contre Kengo, contre ceci, pour que, enfin, quelqu'un du rassemblement, peut-être le président Tshisekedi, peut-être Katumbi, etc. Non, le peuple ne peut pas être pris en otage.
Merci.
Par quelques considérations de frustration personnelle ou d'ambition inconsidérée.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Honorable Emile Okundji, votre conclusion. Nous sommes à la fin de l'émission.
Eh bien, Guy Maté, je ne veux pas.
Vous pensez que vos amis qui sont au dialogue vont avoir assez de marge de manœuvre pour modifier, n'est-ce pas, ces projets d'accord?
Je ne vais pas ici appliquer un ton professoral pour faire comprendre aux gens que le respect de la Constitution n'est pas facultatif, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Lutte de positionnement avec le nom dont tu me cites ici. Mais enfin, nous sommes où et dans quel pays? Les réalités sont là. Le 19, le 20 ne dit rien, M. Atundu. Et donc ici, cet accord politique saute clairement les nuits aujourd'hui que c'est une violation flagrante de la Constitution, violation flagrante de la résolution 2277 du Conseil de sécurité de
l'Union. Vous n'espérez pas que vos amis qui sont là vont apporter des modifications?
Ça contourne, l'accord contourne même la crise et ne vise que le partage du pouvoir afin de pérenniser quelqu'un au pouvoir, éternellement au pouvoir.
Merci.
Et donc, ceux qui sont là sont partis tout justement puisqu'ils veulent partager les gâteaux. Ils veulent se partager le pouvoir.
Merci,
en violation flagrante de la Constitution. Et donc, le peuple ne peut rien attendre de ce monologue qui se tient au Kanchachi.
Merci, honorable professeur Félicien Kabamba. Votre conclusion?
Non, en fait, au-delà du fait que le dialogue n'est pas inclusif, j'ai quand même noté qu'il y a eu quelques alinéas intéressants. L'article 23, alinéa G, par exemple, dit « La Constitution de la République ne pourra faire l'objet d'aucun amendement avant la fin du cycle électoral en question, dans le présent accord et l'installation effective de nouveaux élus. » Vous avez également l'alinéa H.
Merci.
Qui exclut, si vous voulez, l'organisation des référendums constitutionnels. Donc, il y a, à mon avis, des choses qui peuvent aussi être bonnes, mais il faut que cela fasse l'objet de si vous voulez, d'un accord entre toutes les parties prenantes.
Merci, monsieur l'ambassadeur André Alain, de votre conclusion.
Eh bien, les propos du professeur ne m'attendrissent pas du tout par rapport à ma position. C'est un document de travail, c'est un document de travail.
Merci.
Et Radio Okapi doit garder son caractère pédagogique au lieu de relayer certaines rumeurs tendancieuses. Des professions,
il n'y a pas
des
rumeurs,
de foi,
c'est un document officiel.
Des professions de foi.
C'est un document officiel.
Nous
merci,
félicitons
c'est la fin.
Puisque c'est l'église au milieu du village.
Merci, c'est la fin.
Il faut continuer à éduquer
c'est
notre
la fin. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Hippolyte Kapanga qui était à la technique. Merci à Alain Irung, Kéline Kouté, Béry-Francel Luchaka sous la supervision de Pélé Kipé Lamondo. À la présentation, Guy Maté et bon sous de programme sur Radio Capi.